En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'Europe est cette année l'un des principaux thèmes de travail de l'Académie des sciences morales et politiques, placé sous la présidence de M. Michel Albert. Tous les lundis à 15h en salle des séances, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication consacrée à ce thème. Le lundi 24 mai 2004, l'Académie accueillait le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet. M. Trichet avait choisi d'évoquer, bien sûr, la question de l'euro. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir et un très grand honneur que d'avoir été invité par vous-même, Monsieur le Président, à qui tant de liens m'unissent, comme ceci s'est senti, je pense, dans votre introduction, à vous présenter quelques observations sur le thème de la monnaie unique et de la stratégie monétaire de l'Europe. C'est un sujet très important et nombreux sont ceux dans cette salle qui l'ont abordé sous des angles divers, à la fois théoriques et directement opérationnels. La politique monétaire est fréquemment apparue au cours de l'histoire comme l'illustration emblématique de la stratégie économique d'un pays ou d'une zone, et souvent en dernière analyse de son parti stratégique, politico-historique. À titre d'exemple, et pour ne m'en tenir qu'à la France, et à la période englobant la deuxième moitié du XXe siècle et les tout débuts du XXIe, la stratégie monétaire de solidité et de confiance qui a été poursuivie pendant les 11 années allant de 58 à 69 était une pièce essentielle d'un dispositif historique de redressement économique et d'affirmation nationale. Plus proche de nous, la période de 16 années environ à laquelle vous avez fait allusion, Monsieur le Président, qui sépare mars 83 de janvier 99, correspond à une stratégie monétaire dite de désinflation compétitive qui s'était imposée comme étant essentielle à la poursuite du redressement et de la modernisation économique du pays. Elle était simultanément apparue comme la condition nécessaire et comme le puissant symbole de la stratégie de construction européenne également voulue par notre pays. Aujourd'hui, l'euro, la monnaie unique des Européens, est une pièce essentielle du dispositif de conduite de la politique économique de l'Union européenne. Mais il est beaucoup plus que cela. Il symbolise l'union profonde des Européens. Les Européens voient aujourd'hui dans l'euro, au-delà d'un instrument de grande qualité dans lequel ils ont confiance, la preuve de leur union et l'illustration du formidable chemin parcouru depuis le traité de Rome. Le reste du monde voit dans l'euro non seulement la monnaie des Européens, mais aussi la mesure et la preuve de leur unité, la mesure et la preuve de leur vitalité et de leur audace, la mesure et la preuve de leur capacité effective de réalisation historique. Que fallait-il théoriquement et qu'a-t-on fait pratiquement pour être sûr de donner aux Européens une monnaie unique, entièrement nouvelle, d'excellente qualité, sachant que la fusion simultanée de 11, puis très vite de 12 monnaies, n'avait aucun précédent historique, aucun modèle préétabli, et que cette entreprise apparaissait aux yeux du monde entier, y compris aux yeux des Européens, comme extrêmement audacieuse, et à beaucoup hors d'Europe continentale comme manifestement trop audacieuse. Il faut prendre toute la mesure de la difficulté de la tâche que s'étaient assignées les Européens. Il ne s'agissait pas seulement d'optimiser les choix institutionnels, la détermination du concept stratégique de la politique monétaire nouvelle et la doctrine d'emploi de cette stratégie. Toutes les banques centrales sont appelées en permanence à s'interroger sur l'optimalité de ces choix, au regard des progrès de la science économique et de la théorie monétaire en particulier, et en tenant compte de l'expérience et de la sagesse accumulées chez elles et dans le reste du monde. Les Européens devaient en plus optimiser leur choix sous deux angles, de deux points de vue profondément originaux. D'abord, il leur fallait tout créer à partir de rien. Institutions, monnaie et concepts stratégiques, et faire d'emblée de la nouvelle monnaie une entité au moins aussi crédible que la meilleure des anciennes monnaies. et ensuite il leur fallait être sûrs que leurs choix étaient optimaux dans le contexte d'une économie continentale en changement structurel permanent du fait même de l'intégration économique et monétaire européenne, donc dans un environnement comportant un degré significatif d'incertitude supplémentaire. Et c'est sur ces deux traits, je crois, originaux de l'histoire monétaire récente de l'Europe, la question de la réussite de la transition et la question de la navigation monétaire dans l'incertitude, que je voudrais appeler pour quelque temps votre attention. La question qui nous était posée pour créer la monnaie unique devait nécessairement provoquer une intense réflexion théorique, économique et monétaire sur le thème de la crédibilité et en particulier sur la crédibilité de moyen et long terme des nouvelles instances. Elle ne pouvait pas, étant nouvelle par construction même, tirer de leur passé les éléments de preuve garantissant leur crédibilité à venir, ni du passé de la monnaie, qui n'existait pas avant le 1er janvier 1999, ni du passé de l'économie, il n'y avait pas de zone euro avant le 1er janvier 1999, ni du passé des institutions, il n'y avait ni banque centrale, ni eurosystème avant cette date. Or, il avait été précisément documenté par la recherche que les agents économiques, les observateurs, les épargnants, les investisseurs considèrent que les résultats obtenus dans le passé, et souvent dans un passé lointain, sont le meilleur indicateur pour anticiper l'avenir, la condition nécessaire, sinon suffisante, de la crédibilité. Et c'est particulièrement vrai en matière d'anticipation sur le niveau des prix, sur l'inflation monétaire, et donc sur le niveau des taux d'intérêt à moyen et long terme. Il fallait donc bâtir d'emblée des instances nouvelles, institutions et concepts stratégiques, tirant leur crédibilité des seules pertinences et solidité de leur construction, sans référence à leurs résultats passés propres. Mais en outre, la monnaie unique ne devait pas être simplement la meilleure possible. Dans l'échelle des crédibilités monétaires, elle se voyait assigner un objectif de crédibilité à atteindre en tout état de cause, sauf à annuler le projet. Avoir au moins le niveau de crédibilité de la ou des, en réalité il y en avait plusieurs, des meilleures monnaies fusionnées. Le défi à relever était donc celui d'une optimisation de la crédibilité des institutions et de la monnaie sous une contrainte très forte de résultats. Et ces contraintes de la transition étaient déclinées selon diverses modalités juridiques et inscrites dans le traité, politico-stratégiques et exprimées dans le débat public, et enfin économico-monétaires et, si je puis dire, très précisément arithmétiquement vérifiables. Un mot de l'aspect juridique, je reviens là sur des contraintes qui sont bien connues. La contrainte de la transition, c'est celle de la convergence au sens du traité de Maastricht. Je passe sur les deux critères budgétaires de la convergence, qui sont des critères permettant de s'assurer d'un niveau minimum de qualité dans la gestion des finances publiques. Et je m'intéresse ici aux trois autres critères que les membres du Conseil de la politique monétaire ici connaissent bien, de nature économico-monétaire: la stabilité de la monnaie sur le marché d'échange, le bas niveau de l'inflation et le bas niveau de taux d'intérêt de long terme. Dans les trois cas, nous sommes en présence de véritables critères de convergence. Le traité signale de manière très précise que le concept de la convergence économique et monétaire retenu est bien celui de la convergence vers les meilleurs. Alors là, je vais m'aventurer hors de l'Académie des sciences morales et politiques et vous proposer une traduction française qui, je crois, est appropriée du fameux benchmarking de la langue anglaise, il faut dire parangonnage. Donc le parangonnage, j'aurais eu tendance personnellement à dire l'étalonnage, mais l'étalonnage ou le parangonnage sur les meilleurs, et non la convergence vers une moyenne générale qui aurait pu apparaître comme étant naturelle. Mais ceci dit, le traité à lui tout seul n'avait pas prévu une convergence monétaire totale, puisque vous vous en souvenez, en ce qui concerne l'inflation, il prévoit que l'on mesure l'inflation moyenne des trois meilleures économies et que, pour être dans le critère, il faut avoir une inflation qui est inférieure à 1,5% de 1,5% en différence par rapport à ce parangon que constituent les trois meilleures économies ayant la meilleure inflation. 1,5%, c'est une différence substantielle en matière d'inflation, très substantielle. La convergence financière consistait, après avoir calculé la moyenne des taux d'intérêt de marché à 10 ans associés aux trois économies ayant la meilleure inflation, à respecter un écart de 2%, de moins de 2%, par rapport à cette moyenne des meilleures. 2%, dans le jargon des économistes, c'est 200 points de base, c'est un écart très substantiel en matière de taux d'intérêt de long terme. Si l'on s'en tient donc aux critères de Maastricht eux-mêmes, et si l'on fait l'hypothèse d'une distribution égale des probabilités d'être dans les critères et d'avoir un résultat qui se situe entre 0 et 1,5% ou entre 0 et 2%, on pouvait imaginer que le traité se serait contenté d'une monnaie unique qui aurait été décalée de 75 points de base en ce qui concerne l'inflation et de 100 points de base en ce qui concerne les taux d'intérêt de long terme par rapport aux meilleures monnaies. Ceci eût été inacceptable et inaccepté. Et donc, nous avions un engagement solennel qui était de nature politico-stratégique, pris à l'égard des Européens très solennellement et qui devait être que, et qui était, du moins, qui s'incarnait sous la forme suivante, la nouvelle monnaie doit être au moins aussi bonne que la meilleure des anciennes monnaies. Formulé dans chaque pays, c'était « la nouvelle monnaie sera au moins aussi bonne que votre monnaie nationale ». Aussi bonne voulant dire « inspirant au moins autant confiance, conservant au moins aussi bien la valeur, correspondant à une stabilité des prix de même qualité au moins que celle existant auparavant ». Et cela de manière visible, vérifiable, non seulement à court terme, mais dans une perspective de moyen et de long terme, de sorte que la monnaie soit crédible dans la durée. Sans cette promesse, pas d'assentiment des citoyens européens, pas d'assentiment de nos propres concitoyens, tout particulièrement, évidemment, dans les économies, c'était le cas de la nôtre, qui était accoutumée à une stabilité des prix et qui comportait des concitoyens attachés à tous les bénéfices associés à cette stabilité, y compris les bas taux d'intérêt de marché à moyen et long terme. C'était donc une condition essentielle de la création de la monnaie unique. Les citoyens français, bénéluxiens, allemands, qui bénéficiaient en 1997 du meilleur niveau de crédibilité monétaire, n'auraient pas accepté de faire l'euro si le prix à payer en eût été une augmentation permanente de la hausse des prix et des taux d'intérêt de marché à moyen et long terme. Le strict respect de cette promesse était une condition sine qua non de l'euro, mais il faut observer que c'était une condition incroyablement difficile à remplir, tellement difficile d'ailleurs, qu'elle était considérée par beaucoup d'observateurs comme étant à la vérité impossible. Il fallait, et cela a été extraordinairement difficile, en effet, que l'euro se coule naturellement dans la courbe de rendement, c'est-à-dire la courbe des taux d'intérêt selon leur durée, la plus basse, correspondant à la confiance et à la crédibilité la plus haute laissée disponible par la disparition des anciennes monnaies nationales. Le moment crucial de ce point de vue se situe naturellement avant la création de l'euro. Au troisième trimestre 1997, environ un an et demi avant la création de l'euro. Au moment où les banques centrales, et vous en avez certainement, Monsieur le Président, quelques souvenirs, émettant les monnaies les plus crédibles de la zone, annoncèrent l'augmentation de leur propre taux d'intervention pour les porter à 3,3%, c'était le 9 octobre 1997. La quasi-totalité des analystes et des observateurs, des économistes de marché, avaient immédiatement interprété cette hausse groupée de nos taux d'intervention comme la première, d'une série de mouvements qui devaient nous conduire au niveau moyen de la zone. Poursuivant une campagne mondiale d'explication très intense, nous avons, nous, banquiers centraux européens, expliqué, avec un succès qui est allé croissant, que ces hausses n'étaient en aucune manière justifiées par la nécessité de tenir compte des taux d'intérêt beaucoup plus élevés des monnaies, des autres monnaies appelées à fusionner. La convergence, avons-nous expliqué, devait se faire exclusivement sur la base de l'étalon, du parangon, que représentait la courbe de rendement associée aux monnaies les plus crédibles, et dont l'évolution, propre jusqu'à la monnaie unique, devait être, était et serait exclusivement justifiée par la nécessité de préserver intégralement notre étalon de crédibilité. C'est effectivement ce que nous avons observé, chacun a le souvenir, à vrai dire le souvenir s'est estompé parce que tout cela est apparu comme étant extraordinairement naturel, que les taux d'intérêt de marché de l'euro se sont alignés effectivement sur les taux les plus bas et au moment même où nous avons fait la fusion monétaire, les courbes de rendement avaient toutes fusionné sur la base des courbes de rendement les plus basses. Nous avons d'ailleurs, là aussi beaucoup dans cette salle en ont le souvenir, réabaissé nos taux à 3% le 3 décembre 1998, annulant la hausse du 9 octobre 1997. Les 300 millions d'habitants de la zone euro bénéficiaient d'emblée, sans aucune solution de continuité, sans perdre un seul point de base de l'environnement financier le meilleur, celui correspondant à la crédibilité qui avait été acquise progressivement au cours des décennies antérieures dans une partie, et dans une partie seulement de la zone. Comment cela avait-il été possible? Quels étaient les arguments? Quelles étaient les décisions? Quels étaient les raisonnements qui avaient en définitive convaincu tous les investisseurs et tous les participants du marché? Comment avait-on pu, à partir d'une monnaie qui n'avait aucun passé et d'une institution, la Banque Centrale Européenne, qui n'avait que 6 mois, n'avait jamais exercé aucune responsabilité exécutive, à partir d'un eurosystème qui n'existait que depuis qu'il y avait une monnaie unique, comment avait-on pu convaincre les investisseurs du monde entier qui ne sont pas des philanthropes et qui donc prenaient des décisions en fonction de raisonnements les conduisant à penser qu'ils pouvaient faire confiance? Dans mon analyse, pour réussir, il avait fallu réunir 4 conditions relatives aux institutions et 5 conditions, 5 éléments fondamentaux propres au concept de stratégie monétaire. Ces 9 conditions, pour permettre une transition réussie, étaient toutes, dans mon analyse, des conditions sine qua non. L'absence de chacune d'entre elles eût fait échouer l'entreprise. Aucune n'était naturellement suffisante prise séparément. L'observation des faits suggère que la satisfaction des 9 conditions prises ensemble constituait donc la condition nécessaire et suffisante de la réussite de la transition. Un mot donc sur ces conditions. Les 4 conditions institutionnelles sont simples. En premier lieu, l'unicité et la lisibilité de l'objectif premier de stabilité des prix. Dès lors que la contrainte majeure de la transition était la préservation du très bas niveau des taux d'intérêt de marché à moyen et long terme, il fallait préserver les anticipations d'inflation à moyen et long terme. Toute ambiguïté devait donc être écartée s'agissant de l'objectif central de la Banque Centrale Européenne. Loin d'être une originalité du dispositif institutionnel européen, le fait de confier à la Banque Centrale Européenne la responsabilité première de la stabilité des prix est retenu, je le rappelle, quasi universellement dans le monde industrialisé, comme dans les pays émergents et dans les économies en transition, en particulier par toutes les économies qui ont retenu le concept de ciblage direct de l'inflation. Seuls les États-Unis ont une présentation différente qui d'ailleurs, je pourrais y revenir plus tard, ne correspond pas dans mon analyse à une véritable différence de fond. En second lieu, l'indépendance de l'Institut des missions. La recherche économique a montré combien l'indépendance était importante par rapport aux différentes autorités, notamment politiques ou aux groupes de pression économique, pour assurer la crédibilité de la Banque centrale et donc pour créer les conditions d'un ancrage solide des anticipations d'inflation au niveau correspondant à la définition de la stabilité des prix. En troisième lieu, je note la responsabilité devant l'opinion publique, qui est illustrée ou soulignée par les passages réguliers et fréquents, au moins 5 fois par an, du président et des membres du directoire devant le Parlement européen. Cette responsabilité ne correspond pas seulement à une exigence démocratique très forte, elle est également fondamentale pour le bon fonctionnement institutionnel et pour la crédibilité et l'efficacité de la Banque centrale. C'est aussi une incitation très puissante à être efficace dans la mise en œuvre effective de la politique monétaire. C'est une condition essentielle de la crédibilité. En quatrième lieu, vous y avez fait allusion, Monsieur le Président, le dernier, mais peut-être aussi pas le moindre, du point de vue de la crédibilité d'ensemble de l'Union économique et monétaire, le pacte de stabilité et de croissance. Les Européens, on l'a vu, ont été extrêmement audacieux en voulant créer une monnaie unique dans un espace sans fédération politique achevée, sans gouvernement fédéral, sans budget fédéral. Un concept tel que le pacte de stabilité et de croissance, demandant le respect de règles budgétaires et organisant la surveillance mutuelle des politiques budgétaires par les pairs, est le seul moyen, mais un moyen efficace, de pallier l'absence de gouvernement fédéral et l'absence de budget fédéral. Clarté de l'objectif de stabilité des prix, indépendance de l'Institut des missions, responsabilité devant l'opinion, exigence du pacte de stabilité et de croissance, voilà donc quatre conditions indispensables à la crédibilité de l'Union économique et monétaire, de la Banque centrale européenne et de l'eurosystème, c'est-à-dire l'ensemble des banques centrales nationales associées parce que, étant dans la zone euro, et à celle de la monnaie unique elle-même. Mais ces conditions institutionnelles étaient nécessaires, elles n'étaient pas suffisantes à elles seules. Pour réussir l'exploit qui nous était demandé, il fallait réunir d'autres conditions qui ont été exposées à l'ensemble de l'opinion mondiale, aux observateurs, aux investisseurs et aux épargnants, dès le 13 novembre 1998, donc avant la création de la monnaie unique, par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Les cinq orientations qui, complétant les quatre conditions institutionnelles, ont convaincu le monde entier sont les suivantes. D'abord, nous avons précisé la définition arithmétique de la stabilité des prix. Nous avons dit moins de 2%, précisé lors de notre exercice récent de clarification par l'ajout proche de 2%, moins de 2%, proche de 2%. Une imprécision, un flou dans la définition de la stabilité des prix se serait immédiatement traduit par des taux d'intérêt de marché supplémentaires sur toute la courbe de rendement, incorporant une substantielle prime de risque correspondant à l'aléa sur l'inflation future. Le fait de donner une définition arithmétique précise de la stabilité était donc un exercice obligé, compte tenu des contraintes de la transition, exercice obligé de donner une définition de la stabilité des prix dans la continuité des définitions données antérieurement, y compris dans ce pays, mais dans un certain nombre d'autres pays qui avaient précisément le meilleur niveau de crédibilité. C'était aussi, je crois, une exigence du principe de responsabilité de la Banque centrale devant l'opinion. Sans définition précise de la stabilité des prix, comment juger des résultats obtenus par la Banque centrale ? Deuxième orientation, qui était, je crois, également indispensable, placer la stratégie monétaire dans une perspective de moyen terme. Nous avons affirmé d'emblée que notre horizon était nettement plus long que les 18 mois à 2 ans qui sont fréquemment mentionnés par certaines banques centrales, notamment celles qui pratiquent le ciblage direct d'inflation. Le fait de mentionner que notre stratégie s'inscrivait à nettement plus long terme présentait beaucoup d'avantages de notre point de vue, des avantages de politique monétaire, mieux tenir compte des canaux complexes de transmission de la politique monétaire, mieux tenir compte des chocs qui englobent le court moyen terme et ne pas surréagir le cas échéant aux chocs économiques faisant sentir leurs effets à un horizon relativement court mais ne comportant pas nécessairement d'effets de second tour. Enfin et surtout, toujours dans la perspective de la transition, faciliter l'ancrage des anticipations d'inflation future sur toutes les durées, y compris le moyen et le long terme, pour permettre au taux d'intérêt de marché de se situer au très bas niveau qui était le niveau objectif. Troisième orientation, assurer le caractère complet de l'analyse économique. nous n'avons pas retenu un seul système privilégié de prévision de l'inflation, pas un seul modèle mathématique formel et unique pour l'instrumentation effective de nos décisions de politique monétaire. Nous avons pensé qu'il nous fallait avoir une information aussi complète que possible et une analyse aussi complète que possible, et qu'il nous fallait n'être prisonniers ni d'un algorithme, ni d'une équation ou d'un système d'équations, ni d'un mécanisme reposant sur une représentation simplifiée de la réalité. Nous partageons d'ailleurs ce sentiment avec les États-Unis d'Amérique, la Fédérale Réserve, qui elle-même a la même approche, aussi complète que possible, de l'analyse économique. Et ça permettait aussi, de notre point de vue, de bien marquer qu'encore une fois, nous étions capables d'anticiper sur des durées nettement plus longues que les 18 mois à 2 ans des modèles classiques, et que nous étions donc capables de tester la robustesse de nos décisions sur une multiplicité de modèles conceptuellement différents et non sur un seul modèle, éliminant nécessairement beaucoup d'informations. Une quatrième caractéristique également indispensable à mon sens nous a conduit à vérifier la cohérence de l'analyse économique en la croisant avec l'analyse monétaire. Et là aussi, je crois que ceci a joué un rôle pour nous permettre la réussite de la transition. Nous avons en effet la conviction que l'inflation est en dernière analyse un phénomène monétaire dans le long terme, pas dans une perspective de plus court terme. Et donc, en vérifiant notre analyse économique par une analyse monétaire, nous avons bien marqué, encore une fois, que nous entendions ancrer nominalement les anticipations d'inflation sur des durées longues et très longues. Je vous rappelle que j'ai cité les taux d'intérêt à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Il y a beaucoup d'émissions à 30 ans. C'est donc une crédibilité à 30 ans qu'il nous fallait aussi accréditer. Enfin, un dernier point qui est également très important, le concept renforcé de transparence en temps réel de la Banque centrale. Lorsque la monnaie unique a été créée en 1999, on l'a oublié d'ailleurs, mais l'état de l'art des banques centrales consistait à rendre public le diagnostic de l'organisme de décision 5 à 6 semaines seulement après la décision. C'était le fameux moment de la publication des procès-verbaux des minutes. Ceci nous est apparu incompatible avec l'esprit du traité concernant la responsabilité de la Banque centrale européenne et de l'eurosystème devant l'opinion et le Parlement, incompatible avec les nécessités de la communication dans un espace comprenant 12 cultures et 10 langues différentes, et donc dans lequel il fallait veiller à l'unité, à l'unicité du discours et des termes de référence pour les 306 millions d'habitants de la zone, et enfin incompatible avec la nécessité impérieuse de réussir là aussi la transition et d'ancrer solidement les anticipations sans laisser prise à des interprétations contradictoires et à des gloses dangereuses parce qu'elles pourraient, elles auraient pu se développer dans le silence de l'institution. Nous restons la seule banque centrale qui, dans le monde, parmi les banques centrales des pays industrialisés, se prête à une conférence de presse après chacune de ses décisions de manière à expliquer dans le détail ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes particulièrement sensibles lorsqu'on nous fait le reproche de ne pas être suffisamment transparent. Nous avons beaucoup d'éléments qui démontrent une très grande volonté de transparence. 9 conditions donc que j'ai qualifiées de nécessaires, chacune d'entre elles est nécessaire, et qui, à elles toutes, ont été suffisantes, puisque nous avons observé la réussite de la transition que j'évoquais. Le dispositif de la monnaie unique ne devait pas seulement, je l'ai dit, être optimal du point de vue de la gestion monétaire d'une très grande économie industrialisée moderne, dont le produit intérieur brut est de l'ordre de grandeur de celui des États-Unis. Il ne devait pas seulement permettre la pleine réussite d'une transition extrêmement ambitieuse. Il devait être aussi optimisé du point de vue de la conduite d'une politique monétaire dans l'incertain, en sachant que la construction européenne elle-même amplifiait certains éléments d'incertitude. Je vais passer, si vous me le permettez, Monsieur le Président, vite sur ces aspects qui sont pourtant absolument cruciaux conceptuellement. D'abord, nous connaissons mal, d'une manière générale, l'état de l'économie. Ceci est vrai de toutes les banques centrales du monde. Comme vous le savez, les données économiques arrivent avec retard, elle donne souvent lieu à des révisions, parfois à des révisions extrêmement importantes, et donc il y a là, en tout état de cause, une difficulté particulière pour tous les décideurs, et singulièrement, bien sûr, pour les banques centrales. Dans le cas de la zone euro, nous avons une difficulté supplémentaire parce que nous sommes encore en train de construire un appareil statistique qui soit suffisamment perfectionné. Et donc, nous sommes en train de tenter de réduire l'incertitude, mais elle est toujours là, dans une large mesure, dans une mesure supérieure à ce qu'on observe dans les autres économies. Nous avons également la même difficulté pour analyser aussi pertinemment que possible la superposition des chocs économiques qui composent la réalité économique que nous avons sous les yeux, qu'ils concernent l'offre ou la demande, qu'ils soient externes ou internes, qu'ils soient transitoires ou durables. Leur analyse est plus difficile dans la zone euro qu'elle ne l'est dans une autre économie qui aurait en quelque sorte achevé son dispositif de réflexion propre. Et ceci doit nous conduire à en tenir compte dans notre propre action. Et enfin, le point le plus important est que nous sommes, de notre propre volonté, en train de transformer la zone euro et l'Union européenne elle-même, d'ailleurs, sur le plan structurel. La monnaie unique est elle-même un facteur extrêmement puissant et profond de transformation structurelle. Il est évidemment plus difficile d'avoir une bonne représentation de la dynamique d'une économie qui est en transformation structurelle, en sus de toutes les transformations et de tous les chocs que les autres économies ont elles-mêmes à affronter. Ceci, d'ailleurs, est un des éléments qui nous a conduit, comme je l'ai dit, à avoir une conception aussi complète que possible de l'analyse économique. Au total, les 9 conditions que j'ai énoncées tout à l'heure peuvent toutes être réinterprétées comme autant de conditions justifiées par le niveau particulier d'incertitude dans lequel nous sommes plongés en tant que banque centrale de la zone euro, en tant que responsable de la politique monétaire de la zone euro. En renforçant la crédibilité, on réduit l'incertitude. L'incertitude stratégique, c'est-à-dire celle qui se pose du fait de la difficulté de connaître la réaction des agents économiques aux décision de la Banque centrale, est évidemment d'autant plus faible que l'on renforce la crédibilité de la Banque centrale, et c'est ce que nous avons fait, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et de la même manière, l'ensemble des caractéristiques propres à notre politique monétaire, je crois, peuvent être réinterprétées, comme je l'ai dit, comme nous permettant de mieux prendre les décisions de politique monétaire dans un environnement d'incertitude. Ceci étant dit, les choses sont loin, Monsieur le Président, d'être achevées. Quelle que soit la qualité des institutions et l'originalité des concepts de stratégie monétaire que je viens de dénoncer devant vous, la conduite de la politique monétaire doit être inspirée, éclairée par une sagesse, un sang-froid, une modération dans les réactions diverses, une sagesse qui peut recommander soit d'éviter de surréagir dans quelque direction que ce soit, à la hausse ou à la baisse, à des données, à des informations ou à des résultats de calcul qui se montreraient ensuite erronés, ou qui, parfois exceptionnellement, dans un univers particulièrement perturbé et incertain, peut recommander de prendre des décisions qui minimise l'impact des risques, dont la probabilité ne peut être calculée ni même estimée, mais dont la réalisation serait catastrophique, particulièrement lorsque l'on est dans une incertitude de type 19, c'est-à-dire une incertitude qu'on ne peut pas probabiliser, ce qui est le cas parfois pour nous. Donc, quelle que soit la qualité des institutions, quelle que soit l'optimalité des concepts de stratégie monétaire, la conduite de la politique monétaire doit allier un peu d'art à beaucoup de science, et c'est ce que, je dois dire, nous nous efforçons de faire, mes collègues et moi-même, au niveau de la Banque centrale et de l'ensemble de l'eurosystème. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a 54 ans, 6 ans avant la signature du traité de Rome, Jacques Rueff écrivait « L'Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas ». Dans un article que j'ai retrouvé, qui est publié par la revue Synthèse de Bruxelles. Nombreux, je l'ai déjà dit, dans cette salle et dans votre compagnie, sont ceux qui ont eu le privilège d'être à la fois les témoins et les acteurs ô combien importants de l'histoire qui se fait sous nos yeux. Je ne veux pas citer de noms, mais j'en aurais beaucoup à citer. Les pères fondateurs, les couples dont le courage politique et l'amitié historique a été absolument fondamental dans cette extraordinaire histoire de l'Europe, notamment les couples de chefs d'État et de chanceliers franco-allemands. S'agissant de la monnaie unique, je ne peux pas ne pas citer le nom de Raymond Barre, celui de Pierre Werner et celui de Jacques Delors. Et il faudrait que je cite tous ceux dans cette salle, ou dans cette compagnie, Jacques de La Rosière, Thierry de Montbrial, qui ont été soit des témoins exemplaires, soit des acteurs extrêmement importants, et beaucoup d'autres. Je crois que l'unité monétaire de l'Europe qui se fait sous nos yeux est un processus historique d'immense portée. Je note que les 10 qui viennent de nous rejoindre n'ont pas exprimé de réserve à l'égard de la monnaie unique. Nous devons naturellement organiser cette intégration monétaire avec un très grand soin, parce que ces nouvelles fusions, comme la transition initiale, doivent laisser absolument intacte la crédibilité et la confiance dans l'euro, la crédibilité de la monnaie unique, l'ancrage des anticipations à moyen et long terme que j'évoquais, le long terme allant jusqu'à 30 ans. Mais virtuellement, nous sommes déjà 22. Et je crois que nous serons 25 plus vite qu'on ne le croit. Au regard de l'histoire, quoi qu'il en soit, le temps écoulé depuis le 1er janvier 1999 est un éclair. Et puisque je parle de l'élargissement d'une part et de l'histoire d'autre part, est-ce que je peux mentionner, Monsieur le Président, que dès 1462, le roi de Bohême, Georges Poliébrad, suggère la création d'une confédération européenne et va, et à ma connaissance, c'est le premier depuis les Carolingiens, va jusqu'à dire qu'il faut introduire une monnaie unique européenne, à tout le moins, dit-il, pour l'armée européenne, afin que les soldats n'éprouvent pas de difficultés en marche, en garnison ou à leur retour. Les racines de l'institution pacifique de l'Europe unie sont profondes. On voit affleurer l'esquisse des concepts qui s'incarnent aujourd'hui dans les mémoires de Sully, rédigées en 1634, dans lesquelles on a une Europe des 15 qui est déjà complètement rédigée, dans le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, dans les remarques de Leibniz, Goethe, Victor Hugo. Je note que certains aujourd'hui sont perplexes, sont heurtés, sont troublés, ils ne voient pas ou ils ne voient plus très clairement où va l'Europe. Cette imprévisibilité est probablement la marque même de l'histoire qui se fait. Et je note que la Convention, qui a voulu faire avancer l'Europe dans toutes les directions, si je puis dire, simultanément, présidée par Valéry Giscard d'Estaing, a retenu la leçon de Jean Monnet, qui écrit dans ses mémoires: ceux qui ne veulent rien entreprendre parce qu'ils ne sont pas assurés que les choses iront comme ils l'ont arrêté par avance se condamnent à l'immobilité. Personne ne peut dire aujourd'hui la forme qu'aura l'Europe où nous vivrons demain, car le changement qui naîtra du changement est imprévisible. Merci, Monsieur le Président.
C'était le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, devant l'Académie en séance publique le lundi 24 mai 2004. Jean-Claude Trichet présentait une communication sur l'euro. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité du texte de cette intervention sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse: www.asmp.fr. Le site vous propose également de découvrir l'ensemble des travaux de l'Académie et des académiciens.
Vous écoutez Canal Académie.